bienvenue au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Aujourd'hui, on va avoir un cours de sapologie tous ensemble, puisqu'on va parler du vêtement. Pour parler de ce domaine extraordinaire, j'ai trouvé les meilleurs Christilla Cordula de la place. Et donc, je vais vous présenter mes collègues magnifiques. En droit, Emeline.
Bonjour.
En histoire, Pierre.
Bonjour.
En informatique et culture geek, Mira.
Bonjour à tous.
Et à la technique, Jean-Michel. Sans plus attendre, nous allons parler de l'histoire de nos jolis petits vêtements avec Pierre.
Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai un problème moi avec les vêtements, c'est que j'entrave que dalle aux fringues. Pour moi, une garde-robe, c'est pas très compliqué. Une paire de docks, un vieux jean crasseux, pas toujours mais parfois propre, et puis un t-shirt qui forme à peu près l'essentiel de ma garde-robe. Pour moi, le dressing est un mot un peu inconnu. Donc du coup, est-ce que j'allais faire une histoire du vêtement ? Ma cache. En fait, c'est cool de savoir que nos ancêtres avaient des slips en peau de bison, que la robe fut longtemps un vêtement masculin. Mais en fait, ça ne me bottait pas de le faire comme ça. Alors je me suis dit, tu vas aller chercher un petit truc un petit peu différent. Et comment jaspiner autour de la sape ? Pour ça, je suis allé voir dans mon bob pour y pirater quelques termes fortement ergotiques pour causer de vêture. Prenons un cas simple. Un futur entretien d'embauche nécessitant d'être de fait sapé comme jamais, afin d'intégrer le circuit des mecs propres sur lui, mode Startup Nation. Ici, chez un banquier, peut très bien s'adapter aussi sous forme de demande de prêt immobilier dans le même cas. Donc, partant de ce principe, je suis allé voir le trieur pour causer de quoi me mettre sur le dos pour avoir l'air d'autre chose que d'un pingouin. En fait, il a tout voulu me fourguer, comme si j'étais un loufard. Il m'a déroulé le chapelet. Pour être un baron, prends d'abord un calbut de daron. Puis mets-y par-dessus un futal de prince, mais évite la camelote du singe. Prends donc ce bénousse de compète, des falzards comme ça pose ton bonhomme. Ensuite, tu fais peut-être un Marcel, et puis dessus tu mets une 15. Non, pas un raglou, une yéyé, une vraie 15. Celle qui te fera toi autre chose qu'un cave. Jusque-là, t'as tout bon. Pour faire le jantel, ensuite, tu poses un remplisseur de gorge, genre classieux, pas un tour de cou suicidaire. Et puis enfin, si je puis me permettre, cale-toi une bardine digne de ce nom. J'ai des angliches d'excellente cam. Problème ensuite, c'est qu'il faut de quoi te couvrir les arpions. Une paire de chausse-pieds et des pompes qu'ils font bien. Alors évite d'abord le flip-flop socket, t'auras l'air d'un racaillon ou d'un bouif de bord de mer. Je suggère, franchement, une paire de grolles ou des brocantes, et là, t'auras l'air d'un prince. T'as un problème ensuite, t'es qu'un bigleux comme une taupe de basse extraction. Il te faut des lorgnons tendance beau gosse, afin que t'aies des belles chasses de greffier pour ta jaspine avec ton futur boss. Donc en partant de ce principe, je te propose une belle paire de lorgnons noirs qui le feront bien. Pour ta tête, mon grand, évite la carapuche, ça fait peuple. Évite aussi le quinquelou, on dirait un sorbonnard attardé. Mais donc un galure, pas un marlou. Chaffe plutôt la cloche à fromage ou plutôt un tuyau de poil pour te filer une allure d'English of the City. Et là, franchement, ça va marcher. Si avec tout ce barda, tu décroches pas un taf chez le seigneur des deniers ou son acolyte le maître des écus, c'est vraiment que t'es qu'un cave et que je peux rien pour ces zigs. Alors je passe sur la réalité effective de ce petit discours. J'ai juste un petit mot à passer à mon frelu qui m'a inspiré et qui m'a donné l'inspiration.
Merci Pierre pour cette chronique qui, je pense, nécessite d'être réécoutée avec un dictionnaire argotique pour être bien comprise. En tout cas, c'était un moment perché dans le temps. On va continuer avec un autre moment perché dans le temps. On va se Madeleine de Prouster la tête avec Zebda, tomber la chemise.
Y'a la dépendue qu'on des têtes de cailloux.
sautant que les minés. On mit le feu en sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air.
Merci à tous, vous êtes toujours au Conseil des classes, l'émission qui note tout et surtout n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui dans une émission sur les vêtements, une émission en partenariat avec Croc Radio et l'UPOP. Pensez à regarder sur le site de l'UPOP les conférences à venir. Et on va continuer dans le domaine du vêtement, mais Emeline a mis sa robe pour nous parler du vêtement et du droit.
Ah, la mode, un annuaire en perpétuelle évolution où la créativité règne en maître. Enfin, il faut relativiser, hein, parce qu'un vêtement, ça reste un vêtement. Dans l'univers de la mode, le glamour et la beauté coexistent avec un ensemble complexe de lois et de réglementations. Cette intersection du droit et de la mode, connue sous le nom de droit de la mode, est un domaine juridique qui touche à des domaines aussi variés que la propriété intellectuelle, le droit du travail, le droit des contrats, le droit international, la durabilité, l'éthique, la protection des consommateurs, le marketing, la publicité, les droits de l'homme, la concurrence, etc. Chaque Fashion Week nous éblouit, ou pas, par l'inventivité et un certain sens du style des grands créateurs, mais surtout de l'industrie vestimentaire. Des collections audacieuses, parfois loufoques, des créations avant-gardistes, la mode, ne manque jamais d'imagination. Cette créativité hautement valorisée économiquement doit être protégée. Et cela passe par les droits d'auteur, des marques et des brevets pour des techniques de fabrication innovantes ou des designs uniques afin d'éviter la contrefaçon et préserver le travail des créateurs. Cependant, la mode, c'est aussi une question de responsabilité. Certains oublient parfois l'importance de l'éthique dans ce domaine. Que ce soit en matière de conditions de travail dans l'industrie textile ou de respect de l'environnement ou encore d'expression d'une certaine liberté individuelle, il est primordial que nos futurs créateurs intègrent ces valeurs dans leur démarche. De plus en plus de marques, d'ailleurs, s'engagent à respecter des normes éthiques dans leur processus de fabrication, sous la pression des consommateurs et des réglementations en vigueur, quitte à clamer haut et fort leur engagement pour l'environnement, tout en utilisant des matières synthétiques non recyclables et en faisant travailler des enfants dans des usines à l'autre bout du monde. On se demande bien quel sera leur prochain slogan. Sauvons la planète en polluant joyeusement ? Quoi qu'il en soit, je souhaitais évoquer avec vous un sujet d'actualité sensible pour toutes les fashion victimes qui remplissent nos classes, mais surtout pour chacun de nos élèves désireux d'exprimer qui ils sont par leur tenue vestimentaire, l'uniforme. En droit, un choix vestimentaire judicieux témoigne d'une compréhension profonde du code vestimentaire en vigueur, une sorte de langage non-verbal respectueux des normes professionnelles et sociales. En effet, certains secteurs imposent des tenues spécifiques pour des raisons de sécurité, d'hygiène, d'image de marque et ou d'identité d'entreprise. Il est important de connaître ses droits en matière de code vestimentaire au travail. C'est bien plus qu'une simple question esthétique. C'est une déclaration consciente de son engagement professionnel, d'adhésion à l'identité collective, voire une négation de son identité individuelle. En droit, où l'éthique et la présentation sont des éléments essentiels, le choix vestimentaire envoie un message clair sur la volonté de se conformer ou pas aux normes éthiques et professionnelles. Dès lors, la question de l'uniforme, notamment à l'école, fait débat. S'agit-il de créer un environnement académique plus formel et respectueux, de montrer un respect envers les pairs, les enseignants et l'institution dans son ensemble, de placer tout le monde sur un pied d'égalité ou de nier l'individu, sa liberté à porter ce qu'il veut afin d'exprimer qui il est. Je vous laisse juger. Il est cependant important de souligner que le code vestimentaire en droit ne doit pas viser à uniformiser ou à restreindre l'expression individuelle. Au contraire, les textes disent qu'il doit encourager la créativité dans le respect des limites éthiques. Dès lors, l'uniforme scolaire, comme pourra l'évoquer Mira, ne permettra pas une négation des inégalités, bien au contraire. Il est à craindre qu'il ne les accentue. Pour finir, évoquons une actualité qui peut faire sourire, mais dont les enjeux financiers sont délirants. La bataille des marques de luxe pour protéger leur logo. Oui, mesdames et messieurs, après avoir dépensé des millions en recherche et développement, certaines marques se retrouvent à devoir défendre leur œuvre d'art contre des imitations bon marché. C'est le cas de Chanel, qui en 2021 a perdu son procès contre Huawei. La marque de luxe française attaquait le géant de la technologie chinoise qui souhaite déposer un logo proche du sien. Pour la seconde fois, les juges européens ont rejeté la demande de Chanel d'interdire à Huawei l'utilisation de deux arcs de cercle entrelacés à la verticale pour former un H. On attend avec impatience le procès où la question cruciale sera « Qui a le droit de porter le plus gros logo sur son sac à main ?» En conclusion, le droit et la mode sont deux matières aussi différentes que complémentaires. Si le droit nous offre un cadre pour vivre en société, la mode, quant à elle, nous permet de nous exprimer et d'affirmer notre identité. En combinant rigueur et créativité, l'élève mode doit être prêt à relever les défis qui l'attendent dans ces deux univers.
Eh bien, merci beaucoup, Emeline. Je propose tout de suite qu'on passe aux avertissements du conseil de classe avec Béranger.
Merci. Alors, un avertissement spécial à tous ceux qui passent leur temps à dire que l'habit ne fait pas le moine. Si, l'habit fait carrément le moine.
Ah non, je me permets de te contredire. Ce n'est pas un habit qui va te donner la compétence ou la foi d'un moine.
La compétence, peut-être pas, mais le pouvoir, si. La recherche en psychologie sociale est unanime sur le sujet. Un vêtement, symbole d'autorité, vous permet de soumettre les gens. On peut citer, par exemple, l'expérience de Bushman, qui montre que que vos chances d'obtenir de l'argent à un parc-mètre passent de 30% à 80% quand vous faites la demande aux passants habillés en pompier. Ou celle de Guéguin et Pascal, qui montre qu'engueuler une boulangère pour qu'elle vous offre les 10 centimes qui vous manquent marchera à 75% du temps si vous portez un costume cravate, contre seulement 20% du temps si vous êtes habillé normalement.
Il y a donc un vrai pouvoir de la cravate ?
Ouais, carrément. Et tu sais, Mira, d'où vient le mot cravate ?
Non, en tout cas pas avant d'avoir lu la chronique que tu m'as imprimée avant l'émission.
Alors, ça venait d'un corps d'armée composé de croates qui portaient ce petit bout de tissu dans leur uniforme. Croate, cravate, vous avez l'idée ?
Donc, si je comprends bien, hein, vêtements égale pouvoir, j'ai bon ?
Ouais, c'est ça. L'uniforme peut être aussi... Alors, ça peut être un outil pour soumettre les autres, mais ça peut être aussi un outil pour soumettre celui à qui on impose de le porter. Par exemple, en lui interdisant tout signe distinctif ou en lui imposant un uniforme moche parce qu'on a beaucoup plus de mal à s'imposer à son patron quand on est dans un costume mal taillé d'un marron dégueulasse. Hashtag McDo. L'exemple devient aussi frappant chez McDonald's, qui donne aux salariés débutants des uniformes sans poche pour éviter toute forme de vol. Et au gré des grades obtenus, ils obtiennent de plus en plus de poches sur l'uniforme, le but n'étant pas vraiment d'empêcher le vol, hein, parce qu'on est d'accord qu'on peut toujours glisser un billet dans le caleçon, hashtag enterrement de vie de garçon entre copains. Mais c'est plutôt un signe de la confiance qui est accordée ou pas.
Mais tu exagères, les vêtements ne sont pas toujours synonymes de lien hiérarchique.
Je sais pas. Mais en tout cas, ce lien entre vêtements et hiérarchie, il est quand même rentré dans la langue française. On parle bien d'école bleue et d'école blanc, pour parler des ouvriers et des cadres. Le bleu était la couleur donnée aux ouvriers, car c'était la moins chère à produire, et le blanc aux cadres, parce qu'ils risquaient pas de se salir. Tu connais sûrement l'expression « le bleu » pour parler de quelqu'un d'inexpérimenté ou d'idiot. Quand on dit « se faire avoir comme un bleu », et ben en fait, le bleu, il renvoie au bleu de l'ouvrier. Donc, se faire avoir comme un bleu, bah, ça veut dire être con comme un ouvrier. Les syndicalistes apprécieront. Va me dire après ça qu'il n'y a pas un lien entre vêtements et hiérarchie sociale.
Effectivement, ok. Mais il doit bien y avoir des limites à ce qu'on peut imposer dans le cadre du travail.
En termes de vêtements ? Ouais, alors je vais un peu empiéter sur la compétence d'Emeline, mais oui, le droit impose des limites, mais tu vas voir qu'elles sont assez floues. Puisque l'arrêt Société Générale, qui définit le lien de subordination qui permet à l'employeur d'imposer un certain nombre de choses, dont notamment les uniformes, dit qu'on peut imposer des choses à partir du moment où c'est justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise. Allez, va donner une définition claire à l'intérêt légitime de l'entreprise. Alors, ça peut être clair quand le but, c'est d'assurer la sécurité des salariés ou qu'il y a un contact avec la clientèle. Mais il y a plein d'endroits où ça peut être très flou. Je peux, par exemple, te citer l'histoire du chemisier transparent, où une assistante de direction a été sanctionnée puisqu'elle portait des chemisiers transparents. Elle s'est défendue devant les prud'hommes en disant qu'elle n'était pas en contact avec la clientèle, donc l'employeur n'avait pas d'intérêt légitime à lui imposer une tenue vestimentaire. L'avocat de l'employeur a répondu avec un tableur Excel à la pluie que... Je suis désolé, je ris tellement, c'est lunaire, mais il a démontré avec un tableur Excel l'impact des vêtements de la dame sur la productivité du reste de l'open space, plus subjugué par ses atouts que par la notion de comptabilité.
J'attendais le moment où t'allais commencer à parler de trucs un peu sexy, ça manquait sur une chronique sur le vêtement quand même.
Ouais, tu crois pas si bien dire, mon cher Mira. On peut aussi citer l'initiative du syndicat québécois des infirmières qui se plaignent de l'utilisation abusive des costumes d'infirmières sexy durant les fêtes ou durant les jeux entre adultes et qui sexualisent à outrance leur métier. Elles militent donc pour la fin du costume d'infirmière sexy et ont monté des opérations où elles inséraient dans les magasins de costumes des costumes d'infirmières réalistes, beaucoup moins sexy mais beaucoup plus pratiques quand on doit vraiment aider un patient ou porter une mamie. Donc oui, dans le vêtement se joue le rapport de force, pas seulement le rapport de force employeur-salarié, mais aussi le rapport de domination homme-femme, homme-femme. Oui, Émilie n'est pas là aujourd'hui, donc je parle à sa place du patriarcat, j'ai gagné un point.
Bravo, un point pour toi effectivement. Tu as raison, donc l'habit fait le moine, et visiblement pas seulement le moine, hein, il fait aussi le banquier, l'infirmière ou le pompier.
Oui, oui. Bah, en conclusion, on peut dire que le vêtement est un élève trompeur. Il a compris que la présentation pouvait suffire pour impressionner, même quand le fond n'est pas là. Alors, sans aller jusqu'à militer pour le naturisme en classe, hein, nous pouvons l'inviter à passer plus de temps à réviser ses leçons qu'à repasser sa cravate.
Ben merci beaucoup Béranger pour cet avertissement. Je vous propose tout de suite une nouvelle pause musicale avec Nancy Sinatra. There's boots are made for walking.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Mm-hmm. Are you ready, Boots? Start walking.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Aujourd'hui, nous évaluons le concept de vêtements avec Pierre en histoire, Emeline en droit, et on va continuer avec Mira. Je suis très curieux de savoir comment Mira a pu prendre le concept des vêtements et nous faire une chronique sur l'informatique et la culture geek.
Eh bah, bonjour à tous. Presque un mois sans entendre ma douce voix. Et je suis sûr que mon bégaiement vous avait aussi manqué. Hein. Bon alors, qu'est-ce que j'ai raté en un mois? Vous avez fait les jeux vidéo. Ah bah oui, c'est sûr, en informatique et culture geek, j'aurais fait tâche, hein, c'est sûr, j'aurais pas su quoi dire. Bon, allez, passons. La mode, les vêtements. J'aurais pu vous parler du e-commerce, de la fast fashion, de Shein, de Wish, de Temu, ou encore de dropshipping, mais je pense que c'est un sujet particulièrement complexe, et que les utilisateurs de ces sites sont déjà tous parfaitement conscients des nombreux problèmes qu'ils ont, qu'ils soulèvent. Hein. Donc,
Ouais, je suis pas sûr que tout le monde soit si informé que ça sur le sujet. Hein.
Ah, ouais? Bah bien, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, je vais faire un résumé. Hein. Dites-vous que si vous achetez un joli pull en alpaga pour 8,50€ frais de port compris sur Shein, alors que la boutique de vêtements de votre quartier le vend habituellement 139,99€, c'est que vraisemblablement, il y a un problème. Et sans vouloir être pessimiste, à la réception, vous vous rendrez vite compte que ce n'est manifestement pas de l'alpaga. Ce n'est peut-être même pas de la fibre naturelle d'ailleurs, que la fabrication est bâclée et sûrement issue de l'exploitation de populations opprimées comme les Ouïghours en Chine ou autres. Hein. Mais là, on sort très vite de mon domaine de compétences et mes collègues sont bien plus pertinents sur le sujet que moi. Le seul lien concret, c'est qu'ils utilisent des sites et applications de vente pour vous escroquer. Oui, j'assume, escroquer. Vous avez l'impression de faire une bonne affaire en achetant ce bracelet à la mode, en corde paramilitaire que tout le monde veut en ce moment, pour seulement 15,99€ sur Amazon. Mais non, en réalité, votre bracelet, il est vendu 60 centimes en sortie d'usine chinoise, et Valentin, qui vient d'arrêter ses études, se fait plus de 15 balles sur votre dos sans effort, en vous le vendant, et vraiment sans effort, j'insiste. Concrètement, ça prend 10 minutes, montre en main, de monter une boutique virtuelle. De lier des articles divers et variés à des fournisseurs qui se chargent pour Valentin de la fabrication et même de l'expédition. Il ne lui reste plus qu'à se faire référencer sur Amazon, là encore 10 petites minutes, et c'est le jackpot. Valentin ne fait plus rien. L'argent est versé directement sur son compte à chaque commande, et la commande est automatiquement transmise au fournisseur qui se charge du reste. Hein. C'est la magie du dropshipping. Et pour le reconnaître, c'est très simple. Hein. Si vous avez plus d'une semaine d'expédition en commande sur votre, en commandant sur le net, pardon, c'est sûrement du dropshipping. Et concrètement, vous faites avoir, hein, parce que vous ne faites que financer les pizzas d'un gamin en échec scolaire. Bon. Effectivement, c'était peut-être salutaire de faire ce petit rappel. Merci Béranger.
Merci, mais du coup à l'origine, c'était quoi le sujet de la chronique?
Eh bien, je voulais vous parler de jeux vidéo. Non pas que j'ai une revanche à prendre, hein, mais mode et jeux vidéo, vraiment, ça fonctionne très bien. Je m'explique. La personnalisation de personnages, accessoires, armes, véhicules ou que sais-je encore dans les jeux vidéo se fait généralement via ce que l'on appelle des skins. Et des skins, on en a pour toutes les sortes et pour tous les budgets. Il y a le dernier skin à la mode sur Fortnite que les 10-20 ans s'arrachent à petits coups de montant, généralement entre 5 et 20 euros. Mais avec 230 millions de joueurs actifs et approximativement 40% ces joueurs qui achètent des skins chaque mois, ça fait très vite une somme rondelette pour le studio à l'origine du jeu. On pourrait citer également League of Legends, hein, qui fonctionne sur un principe très proche, avec des champions qu'il faut d'abord acheter afin de pouvoir les utiliser lors des parties, et que l'on peut ensuite personnaliser avec différents skins, là encore, en les achetant. C'est un modèle économique particulièrement efficace, hein, que la plupart des jeux du moment ont adopté. Et après tout, rien ne vous oblige à acheter ces objets virtuels pour pouvoir profiter du jeu. C'est un achat purement cosmétique, qui n'influe que très rarement sur le gameplay. Et pourtant, aujourd'hui, dans la cour d'école ou du collège, il est aussi important d'avoir le dernier skin pour son avatar que la dernière paire de baskets à la mode. Et à l'heure du retour de l'uniforme dans l'école, où le but annoncé est de réduire les discriminations, hein, il y a un truc qui sonne faux. archaïque dans le projet. Quel impact peut avoir un vêtement physique là où la discrimination se fait maintenant sur des vêtements virtuels? Il faut vraiment être totalement déconnecté des générations connectées pour penser que le retour de l'uniforme soit une solution. Pour terminer, j'ajouterai que un fait surprenant, hein, en fait, hein, la spéculation financière à base de skins de jeux vidéo. Oui, oui, vous avez bien entendu, certains skins sont extrêmement rares, voire parfaitement uniques. Et tel le marché de l'art, il existe un marché spéculatif spécialisé. Le champion en la matière est le jeu Counter-Strike Global Offensive. Régulièrement, des sommes totalement dingues sont échangées entre les particuliers pour l'achat de skins d'armes. Alors, chers camarades, à votre avis, quel est le prix d'un skin Crimson Web pour un couteau dans le jeu CSGO? Pour vous aider, je vous précise, c'est une baïonnette M9, pour être plus précis. À votre avis?
Je dirais approximativement beaucoup.
Ouais.
Quoi? Vraiment beaucoup.
Beaucoup, oui. Bah, ça, alors, c'est, tout est relatif, hein, bien sûr, beaucoup.
Alors, je dirais le prix d'une Clio.
Le prix d'une Clio. Ah bah, je pense qu'on n'en est pas loin, hein, si c'est une Clio avec pas trop d'options. Parce qu'en fait, c'est 9 000 $. Rien que ça. Hein. On peut retrouver aussi un skin de fusil sniper avec un joli dragon doré dessus pour 26 000 $. Et on est encore loin du record, puisque un trader de skin a vendu une apparence pour fusil d'assaut AK-47. On est toujours dans le monde virtuel, hein, on est bien d'accord. Donc un skin d'armes virtuelle pour 400 000 $. Rien que ça. Et ce même trader a récemment refusé une offre d'1 500 000 $ pour un skin de couteau, le vendeur estimant tout simplement que l'offre n'était pas à la hauteur du skin. Voilà, moi après ça, je me dis que je ne perdrai pas une minute de plus à évaluer notre élève, je vais plutôt aller farmer les skins Counter-Strike.
Merci Mira pour cette chronique. Alors, le message est passé, hein, la prochaine fois qu'on fait une émission sur les jeux vidéo, on vous fait venir, promis. Promis.
Et j'ai pas été subtil?
Non. Ah, je sais pas. Sur Henri Cavill aussi, on vous fait venir, promis.
Ah oui, oui, ça il faut.
Ça, c'est important. Et j'ai bien compris que vous vouliez peut-être militer pour l'uniforme numérique. En tout cas, je vous remercie et je remercie toute l'équipe pour cette chronique. Donc, Emeline au droit, Mira à la culture geek et informatique, Pierre en histoire géo et Jean-Michel à la technique. C'était le conseil de classe, l'émission qui note tout et surtout n'importe quoi, en partenariat avec l'UPOP, allez voir le site. Et pour la dernière chanson, on a décidé de vous épargner le sapé comme jamais et d'aller sur un groupe que nous apprécions tous dans l'équipe, les Fatal Picard avec Asta XXL.
C'est aujourd'hui le grand soir. Les drapeaux rouges, virgule, les drapeaux noirs. Depuis le temps qu'on nous l'avait promise, elle est là, la dictature du corps, du prolétariat. Camarade, la révolution s'est pendant moins d'une heure. De Deauville à Noirmoutier, de Saint-Barthes en fleurs. Avec elle, la lutte des vêtements classe a tout à y gagner. Et ça tombe plutôt bien aujourd'hui, c'est les soldes d'été. Comme le disait le grand Lénine, tout doit disparaître. Moins 50% sur les pulls, les jeans et les chaussettes. Hasta siempre, avec le t-shirt Gucci. Hasta siempre, avec la casquette Gucci. Hasta siempre, avec le poster Gucci. Hasta siempre. Cet homme que tu vois là, crevé dans son sang, au pied de l'escalator, l'avait bien mérité. Il avait voulu me spolier le modèle dont je rêvais tant, le rouge avec les surpiqûres et le col en V. Ce petit bourgeois engoncé dans ses certitudes n'était pas digne de porter les couleurs de la rebellitude.
ville. J'aurais eu l'air de quoi sur les barricades à Méribel, à chanter l'international en short avec des bretelles. Comme le disait Mao avant la grande démarque, moins 50% sur les Tonga, les polos et Den Bar. Hasta siempre avec le médiator du thé. Hasta siempre avec la pipa chic du thé. Hasta siempre avec le caisson rouge du thé. Hasta siempre.
Avec la capote du thé, hasta siempre.